Radio Présence à Millau 106.5.
Présence à Cahors 92.5. Présence. Présence.
Radio Présence 19h.
Bonjour à tous et à toutes, c'est reparti pour un nouveau numéro d'Esprit Sport. Aujourd'hui, on va mettre les crampons, les gants de boxe, une coquille au cas où, ou un protège-dents aussi. Et surtout le micro en face de nous, car c'est une émission très diversifiée qui nous attend dans ce 11e numéro d'Esprit Sport. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe type. Il a fêté dignement son anniversaire ce week-end, les lacs du Connemara à 4h du matin à tue-tête, et il est avec nous sur le pont en forme olympique. Bonjour Corentin.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Est-ce que ça va?
Oui, ça va bien.
Je m'attendais
ça
à pire, niveau voix, niveau voilà, l'articulation c'est pas mal, ça va.
Ça va, je me sens un peu plus vieux mais ça va.
Bah, c'est le désavantage des anniversaires, c'est qu'on prend un an à chaque fois. On a appris que Jérôme Garcès allait aider la section paloise. Une bonne nouvelle pour les anciens,
palois.
Pour les palois et pour les anciens leaders de Top 14. Et ça fait une heureuse. Bienvenue Coraline.
Bonjour, bonsoir à tous.
Comment ça va?
Eh bien, fort bien, la section a encore gagné.
C'est redondant.
C'est redondant.
C'est redondant. Mais ça fait plaisir.
Ah ben oui, bien sûr.
Voilà.
On prend.
Attention à suivre les pronostics à la fin de l'émission. Ça va attendre un petit peu tout le monde ici. On va le voir dans quelques instants. Erwan, notre monsieur de raison, arrivera en cours d'émission. Il a un petit peu de retard, mais il sera avec nous. Pour commencer, on va retrouver les tops et les flops. À suivre aussi un entretien en face à face où on mettra justement ses gants de boxe pour retrouver Modibo Diarra qui nous parlera de sa vie de combattant professionnel, du passage du Covid et de sa retraite. Pour rappel, il est champion du monde junior 2005 de boxe française, champion du monde de France junior 2004-2005, champion de France senior 2006, champion du monde élite 2007, champion d'Europe élite 2008, champion de... Pff, il y en a beaucoup. Champion de France élite 2007 et 2008, on le retrouvera avec nous pour nous parler de la boxe française, comment il en est arrivé là et de tout son parcours. Attention, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui, donc gare à vous si vous êtes passage aujourd'hui.
Je vois que vous avez toujours envie déjà, c'est...
Oui.
C'est un exploit.
Lui il était coach, c'est pas lui qui mettait les coups.
Ah.
Non, sinon c'est compliqué. Sinon aussi un débat dans cette émission où l'on reviendra sur la sortie du silence de Fabien Galthié un mois après la défaite en quart de finale de sa Coupe du Monde face au futur champion du monde sud-africain. Fabien Galthié est-il toujours l'homme de la situation pour le 15 de France? On tentera d'expliquer, d'amener des arguments pour ce débat. Et puis on terminera aussi avec les pronostics, une analyse de match du week-end, de deux matchs même très précisément, pour peut-être vous donner envie d'aller voir les matchs ou peut-être, qui sait, faire autre chose pendant ces matchs avec des amis. Tout de suite, il est l'heure de commencer par l'information sportive de la région et c'est avec Corinne Saint-Félix.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
En Ligue Europa, Toulouse a remporté un match de prestige jeudi dernier contre Liverpool.
Et oui, ils l'ont fait. Les Toulousains ont remporté la quatrième journée de Ligue Europa sur le score de 3-2 contre Liverpool, l'un des meilleurs clubs au monde. Les Violets se sont replacés à la deuxième place du classement avec 7 points. Ils profitent du revers de Saint-Gilloise à Linz pour prendre 3 points d'avance sur les Belges. Une victoire contre ces derniers le 30 novembre au Stadium serait synonyme de qualification pour les phases finales de la Ligue Europa.
Après sa victoire historique contre Liverpool, le TFC a réussi à décrocher un match nul.
Oui, les Violets affrontaient l'équipe de Lille en Ligue 1 hier. Les Toulousains ont largement été dominés tout le long de la rencontre et ont marqué sur une de leurs seules occasions du match. Résultat, un match nul 1-1. En Ligue 2, Rodez affrontait Guingamp, là aussi match nul 0-0.
En Top 14, le Stade Toulousain s'impose dans la douleur avec ses internationaux.
Battu la semaine passée à Pau, le Stade Toulousain a renoué avec la victoire ce samedi contre Perpignan, 43-34 au stade Ernest Vallon. Il a notamment pu compter sur le retour de ses internationaux avec Thomas Ramos, titulaire à l'ouverture, ou Antoine Dupont, remplaçant au coup d'envoi, mais qui est entré en jeu. L'USAP a inscrit 28 points en seconde période. Lors de ce second acte, Toulouse a perdu le point de bonus offensif.
Bonne nouvelle pour le joueur du Stade toulousain, Emmanuel Méafou a été naturalisé.
Oui, Emmanuel Méafou a officiellement reçu son acte de naturalisation à la préfecture de la Haute-Garonne la semaine dernière. Au milieu des 79 autres naturalisés du jour, le joueur du Stade toulousain a entonné sa première Marseillaise. Né en Nouvelle-Zélande, Méafou avait jusqu'ici la nationalité australienne. En obtenant la nationalité française, le rugbyman peut désormais prétendre à la sélection en équipe de France. « Je suis très fier d'être français et d'être toulousain », a-t-il déclaré.
En escrime, le néo-ruthénois Gaëtan Billa et l'équipe de France DP remportent la première manche de Coupe du Monde de la saison.
Débarqué en Aveyron à la fin de l'été au départ de la star de l'ERA Alexandre Bardonnet pour le club de Levallois, Gaëtan Billa a effectué ce week-end sa première sortie internationale en tant que ruthénois lors du par équipe de la manche de Coupe du Monde de Berne en Suisse, la première de la saison. Le jeune épéiste de 22 ans et les Bleus ont régné en maître sur la compétition pour s'adjuger la victoire. Gaëtan Billa repart donc avec le titre lors de la manche de Coupe du Monde par équipe.
Et enfin, Lourdes accueillera la Flamme paralympique le 25 août 2024.
Oui, la Flamme passera dans la cité mariale le tout premier jour de relais en France. Contrairement à la Flamme olympique, plusieurs Flammes paralympiques peuvent briller simultanément, singularité apportée par le mouvement paralympique. À son arrivée sur les côtes françaises à Calais, la Flamme se divisera en 12 flammes qui s'allumeront aux confins de l'Hexagone. Le parcours de la Flamme dans les Hautes-Pyrénées comprendra 7 étapes et un passage dans des villes du département. Les Jeux paralympiques d'été en France se dérouleront, eux, du 28 août au 8 septembre 2024.
Et on dira à Corinne Saint-Félix de mettre une écharpe pour la prochaine fois, évidemment, pour ce journal. Voilà. Rassurez-vous, je lui donnais un paquet de mouchoirs pour la semaine prochaine.
Il faut là, parce que le rhume est bien présent, j'ai l'impression, bien installé quand même.
Le novembre, il a du mal à passer. Les tops et les flops, c'est ceux de l'émission, c'est tout de suite. Et évidemment, Coraline, est-ce qu'on commence par vous?
Eh ben allez, pourquoi pas.
Allez, voilà, on commence par vous, c'est la classique.
Une bonne habitude. Une bonne idée, mon top, ça sera pour une bonne idée de substituer au plastique pour les terrains synthétiques. Direction le Val d'Oise au nord de Paris, à Pontoise plus précisément pour cette initiative. Habituellement, les terrains synthétiques sont remplis avec des petites billes en plastique pour permettre aux brins d'herbe de tenir debout. Et suite à une loi européenne incitant à opter pour des matières plus naturelles, il a fallu réfléchir à une solution écologique et moins toxique aussi. Le remplissage s'est donc fait avec du maïs, qui est donc biodégradable, donc une très très bonne idée écologique. Et mon flop, ce sera pour la préparation des skieurs qui est compromise. Vous n'êtes pas sans savoir que nous subissons un dérèglement climatique. Et malheureusement, ça impacte notre vie au quotidien et également le sport, et plus particulièrement les sports d'hiver. La saison de ski n'a toujours pas pu démarrer. Elle devait démarrer le 28 ou le 29 octobre, je ne sais plus exactement. Faute de neige ou bien à cause des tempêtes, cela pose un problème aux sportifs qui ne peuvent pas s'entraîner de manière optimale. Le doyen français Adrien Théo du ski alpin proposait lui tout simplement de décaler la saison et pouvoir bénéficier de conditions météo plus clémentes tardivement.
Une vraie galère, ces petits bouts de plastique dans les chaussures. Exactement. Après un entraînement Corentin, vous pouvez en attester.
Ah vraiment, quand on rentre à la maison, on vide la chaussure sur le palier, c'est... Non,
on préfère la bonne vieille terre qui colle sous les pompes.
Et qui ne brûle pas aussi.
Oui.
Parce qu'il faut en parler ça aussi.
Qui ne brûle pas. Erwan est avec nous, bonjour Erwan.
Bonjour.
Ah, Erwan, juste avant de vous retrouver, donc bienvenue dans cette nouvelle émission. Erwan qui fait son retour avec un petit peu de retard, pour la peine on va vous faire attendre un petit peu puisqu'on va retrouver les tops et les flops de Corentin.
Oui, alors pour le top, je vais parler un petit peu de tennis, on n'en parle pas si souvent dans cette émission, on va parler d'Adrian Manarino qui a 35 ans et peut-être à son prime, comme on a l'habitude de le dire en football. Il est déjà vainqueur à Newport cette saison et à Astana, et il a enchaîné avec un troisième titre à Sofia en battant Jake Draper en 3-7. Et il entre donc avec cette performance dans le cercle fermé des joueurs de 35 ans ou plus, ayant remporté 3 titres sur une même saison, comme Federer, Djokovic ou Nadal, donc Manarino qui s'assoit à la table des trois meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Et on va enchaîner plutôt avec le flop de cette journée, qui était dans le foot en Ligue 1 pour le match donc entre Rennes et Lyon, un match sous haute tension avec les Lyonnais qui étaient lanterne rouge, qui devaient impérativement s'imposer, mais surtout un match où on a eu une attitude détestable de la part de Nemanja Matić avec l'arbitre de la rencontre, Madame Stéphanie Frappard. Alors, il y a eu un rouge qui avait déjà été donné pour un Rennais à la 5e minute de jeu. Les Rennais qui auraient même pu terminer ce match à 9, car Matic, sur un carton jaune, est vraiment venu invectiver Stéphanie Frappard en venant presque au contact tête à tête. Et donc, l'arbitre a seulement mis un jaune, mais beaucoup, beaucoup d'arbitres d'un plus faible niveau national ou régional se sont indignés sur les réseaux sociaux de l'attitude du joueur et n'auraient pas été surpris qu'il y ait rouge. Des attitudes qu'on aimerait voir un petit peu moins sur les terrains.
Merci beaucoup, Corentin. C'est vrai que cette situation des arbitres est assez inquiétante parce que le week-end d'après, elle se répercute dans les plus petits championnats régionaux. Donc voilà. Alors pas tout le
Ça,
temps,
c'est
heureusement.
des attitudes que beaucoup de joueurs vont répéter, sûrement. Et le problème, c'est que Stéphanie Frappard, elle a la préparation, elle a peut-être le mental aussi pour gérer ces situations. Un arbitre avec moins d'expérience et qui peut être un peu plus fragile, peut-être que ça va avoir une vraie influence sur le match. Et que derrière, quand il faudra siffler une faute ou mettre un carton, peut-être qu'il va hésiter et que ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, ça fausse peut-être aussi un peu le jeu derrière.
Voilà. Je m'en étouffe, dis donc. Tout le monde est malade aujourd'hui. Magnifique. Voilà,
Ça
ça
va le
gêne.
faire.
Ça va le faire. Erwan.
Oui,
Fidèle au
je suis là.
poste, avec un petit décalage. Erwan, vous voulez nous parler rugby dans votre top?
Effectivement, pour le top, j'aimerais parler de Colomiers, qui a battu Vannes, le leader qui était, qu'on pensait, imperturbable, et qui au final a chuté en ouverture donc de cette tac tac tac, excusez-moi, de cette 10e journée de Pro
De
D2.
cette tac tac
Donc
tac.
Vannes qui a perdu de seulement 5 points, Colomiers qui a réussi à marquer 2 essais face aux Bretons, alors que vraiment, on pensait Colomiers un peu dans le dur en ce début de saison. Alors la défaite à Montauban avait été, la victoire à Montauban, excusez-moi, avait été plutôt rassurante, mais franchement, on était très loin d'imaginer que Colomiers était en mesure de battre Vannes, que personne n'avait réussi à bousculer jusque dans ce début de saison et qui a quand même beaucoup d'avance sur les autres équipes. On rappelle 8 points d'avance sur le deuxième Provence Rugby par exemple. Donc voilà, c'est une très belle performance de Colomiers.
Et votre flop?
Et pour mon flop, je voulais parler du niveau qui est affiché en Ligue 1 depuis le début de saison. Faut savoir que il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe en ce moment. Ça fait 2 journées d'affilée que l'on bat le record du moins de buts inscrits dans cette saison de Ligue 1. La semaine dernière, on avait marqué 13 buts. Toutes les équipes de Ligue 1 avaient marqué 13 buts en cumulé. Et cette semaine, ils en ont marqué 12. Donc si on continue comme ça, dans 12 semaines, on arrivera à 0 et ça sera super.
Vivement, la semaine prochaine.
Mais bon, on n'espère pas quand même, surtout qu'en plus, le match, la fameuse grande affiche du football français le dimanche soir, entre OM et Lens, dont on rappelle qui se déroulait à Lens, dont on rappelle qu'ils étaient donc les clubs qui suivaient ou qui poursuivaient même le PSG en fin de saison dernière, on va faire un spectacle extrêmement triste, notamment en fin de première mi-temps, il y avait une séquence absolument lunaire où pendant 1 minute, ni les Marseillais ni les Lensois n'ont réussi à enchaîner plus de 2 passes. Il y avait des contrôles ratés, il y avait des passes mal ajustées, il y avait des déviations étranges et qu'on ne pouvait pas comprendre. Et le problème, c'est que ça se voit sur quasiment tous les matchs de Ligue 1 cette saison, et c'est vraiment très inquiétant.
Très inquiétant, mais personne n'a souligné que cette situation compliquée en Ligue 1 était peut-être due à une semaine européenne.
Y a très peu de clubs qui jouent l'Europe au final en Ligue 1, et puis même quand il n'y a pas de semaine européenne, c'est nul le site. Enfin, excuse-moi, mais je trouve le
D'accord,
niveau vraiment nul affiché depuis le début de saison.
Oui, quand on voit qu'il y a eu un Chelsea-Manchester City où il y a eu 4-4.
Ah ben oui, ça c'était fabuleux, mais c'est ce qu'a dit Thierry Henry tout à l'heure. En conférence de presse donc de France Espoir, le deuxième meilleur club de Ligue 1, c'est Nice, qui fait une très belle saison. On va pas enlever à Nice ce qu'ils font, mais ils ont marqué 13 buts depuis le début du championnat. Ça fait un tout petit peu plus d'un but par journée, parce qu'il y a eu 12 journées pour l'instant. Donc c'est vraiment inquiétant de se dire que la deuxième meilleure équipe de France n'a été capable de marquer que 13 buts en 12 journées, en 3 mois.
Ah, attendez, Rouen. Je crois qu'on a une alerte info de Corentin avec un Toulousain qui va rejoindre sa sélection.
Et oui, c'est Tige Dalinga qui voit ses efforts récompensés avec le TFC, sa belle semaine surtout, qui va remplacer donc Steven Bergwijn et Brian Brobé qui ne sont pas sur ce rassemblement, donc il va venir compenser ses absences.
Voilà, il faudrait un jingle, ça vient de tomber.
Breaking news.
Breaking news, ouais, mais ça fait trop à l'américaine. Personne n'a mis en top le TFC Liverpool. Ce match incroyable, à l'ambiance phénoménale.
Écoutez, je pense qu'on
On
était en
vous laisse le
situation où
faire.
tout le monde pensait que l'autre allait le prendre et que du coup personne ne devait le prendre.
Ben moi je l'ai pris parce que j'y étais à ce match d'anthologie. 90 minutes d'exploit. Les supporters étaient incroyables. Contrairement à Ernest Vallon, ça fait du bien. On retrouve aussi évidemment le TFC face à une grande Europe. En match de préparation cet été, il y a eu la Roma qui est venue affronter les Violets. Là c'est Liverpool pour un match européen. Victoire 3-2. Alors, l'équipe mettra, grâce à la VAR peut-être, alors ils n'ont peut-être pas vu tout le match, en tout cas c'était un Liverpool très faible qui a joué face au TFC, mais une victoire quand même du TFC qui fait plaisir en Coupe d'Europe, et comme l'a dit Corinne Saint-Félix, le prochain match ce sera le 30 octobre.
Octobre, c'est pas
30
possible.
Octobre, 30 novembre, pardon. C'est voilà, donc ça sera face à l'ASC, donc voilà, ça promet là aussi une belle épopée européenne pour le TFC en flop. Melvin Jaminet, le passage de Melvin Jaminet au Stade Toulousain, un passage mitigé. C'était évident qu'il n'allait pas réussir à s'imposer. Heureusement que le Stade Toulousain va faire une belle plus-value sur sa vente puisqu'il partira du côté de Toulon. Voilà. Le passage de Jaminet au Stade Toulousain, on en parle?
Une erreur, à mon sens, c'est une erreur de choix de carrière, parce que il savait très bien qu'il allait être le second de Ramos, et du coup avoir peu de temps de jeu. Je pense que d'autres clubs, en effet, auraient pu lui apporter plus que le Stade Toulousain.
Et peut-être. Personnellement, je pense surtout que Melvin Jaminet, c'est un joueur qui aime beaucoup la. La dépossession, en fait, on en a beaucoup parlé, mais c'est un peu le cas. C'est un peu comme un Anthony Boutier, c'est quelqu'un qui a une très grosse profondeur de jeu au pied, qui est capable d'envoyer le ballon loin devant. Il se plaît peut-être dans des équipes qui dominent pas forcément tous les matchs. Il se trouve que le style de jeu du Stade Toulousain, c'est quand même de globalement dominer les autres équipes, soit dans le jeu, dans la mêlée, dans n'importe quel secteur de jeu. Donc c'est voilà, c'est plus qu'un mauvais choix de carrière. Enfin, c'est un mauvais choix de carrière, oui, mais c'est aussi un mauvais choix de profil, je pense, pour le Stade Toulousain.
Corentin.
Alors je pense qu'il y a quand même aussi une question de conjoncture, hein, c'est-à-dire que Jaminet, quand il arrive au Stade Toulousain, on lui fait quand même miroiter qu'il va prendre la place de Thomas Ramos, et finalement il y a eu une blessure et Thomas Ramos a eu le temps de s'imposer, enfin de conserver sa place de titulaire à l'arrière au Stade Toulousain et de prendre une place de titulaire en équipe de France. Et derrière Jaminet, je pense que mentalement ça a été très compliqué, de certaines infos qui ont pu fuiter auprès de personnes qui suivent le Stade Toulousain, mentalement pour Jaminet ça reste quand même très compliqué. Pourtant il reste très professionnel et très, très agréable au quotidien pour le club. Mais voilà, c'est peut-être une erreur de casting pour le Stade Toulousain, peut-être il est trop jeune, peut-être c'est pas le bon style de jeu. Tant pis, mais si le Stade Toulousain récupère des sous derrière, c'est très bien.
Voilà, d'où l'histoire de cette plus-value. Voilà, c'était les tops et les flops. Tout de suite, on passe au face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Mehdi Bodiara pratique des sports de combat. Il est avec nous aujourd'hui pour un nouveau face-à-face. Quels sont les sports que vous avez pratiqués? Son e-sport de combat, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre pédigré ou votre parcours?
Kickboxing, je fais de la boxe anglaise, je fais du full contact. Et en boxe française, j'ai plusieurs titres de champion de France. Deux titres de champion d'Europe et deux titres de champion du monde en boxe française.
En boxe française, oui, ça fait beaucoup, et ça voilà. Fait déjà beaucoup.
Ça va.
Beaucoup
ça
ou pas va, assez
pour le temps que j'y ai été en boxe dans cette discipline-là, ouais, ça va. Il y a eu plus.
Vous avez commencé la boxe française ou les sports de combat à quel âge?
Moi, j'ai commencé le sport de combat à 12 ans.
À 12 ans.
Vraiment, où j'ai commencé vraiment, bah, après 12 ans, après les combats. Bah, après, j'ai été champion de France junior, minime, tout ça, mais on était jeunes. Après, ça a commencé à partir de 18 ans, quand on commence à boxer en combat.
Donc 20 ans de carrière, vous avez 38 ans maintenant. 20 ans de carrière, parce que vous avez arrêté il n'y a pas longtemps, en septembre, il me semble.
Ouais, j'ai arrêté voilà, en juillet.
En juillet,
dernier même. Dernier combat en juillet.
Ouais, dernier combat
dernier
en juillet.
Combat en juillet, et après, il y a eu le Covid, donc pendant à peu près 2 ans, ça s'est calmé. Bon, voilà quoi. Ouais, une bonne vingtaine d'années.
20 ans de boxe française et de sport de combat. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce sport-là?
Moi, ce qui m'a poussé vers ce sport-là, c'est bah, par hasard. Par hasard, un ami qui m'a proposé de l'accompagner à un gala de boxe et un combat, un entraînement, et depuis je suis toujours allé. Vraiment, c'est par hasard, parce que moi, à la base, je faisais du foot.
Comme beaucoup, ouais.
Voilà.
Et comme quoi, le hasard fait bonnes choses.
Bien sûr. C'est pour ça que faut tout essayer. Et puis, après, voilà, j'ai toujours été attiré par les sports de combat, karaté. Voilà, moi, mes acteurs préférés, mes films préférés, c'est beaucoup les Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme. Voilà, un film d'arts martiaux, et c'est vrai que ça a toujours été en moi, quoi.
Vous avez 20 ans de carrière, on va revenir un petit peu en arrière sur tout ça. Quelles étaient vos routines d'entraînement, alors pendant les compétitions, pendant les galas de boxe ou pendant les simples entraînements, qu'est-ce qui était mis en place pour vous, par vous, lors de ces phases d'entraînement, parce qu'on combat pas comme au foot tous les week-ends.
Ah, tout à fait. Donc après, il y a toujours une préparation, parce qu'il y avait souvent des combats qui arrivaient pas de dernière minute, mais qu'on pouvait nous proposer à une semaine, deux semaines, nous prévenir une semaine, deux semaines avant. Donc comme après j'étais au Krebs, on avait des horaires aménagés, donc on avait un entraînement qui était assez soutenu. C'est-à-dire on avait eu à peu près deux entraînements par jour, le matin et le soir. Lundi matin, lundi soir, mardi matin, mardi soir, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi soir. Et des fois, on pouvait faire vendredi matin, vendredi soir, mais on faisait beaucoup vendredi intense. Après-midi, parce qu'après, on avait le week-end pour les vacances. Ou on avait le week-end soit pour les compétitions, soit on avait le week-end de repos. Tout dépendait des compètes, de comment on pouvait gérer tout ça, en fait.
Justement, quand vous avez donc commencé les combats à 18 ans, comment on fait pour, à cet âge-là, gérer l'aspect sérieux du sport et la vie de jeune fin d'adolescent, début adulte? Comment on gère tout ça?
Ça fait partie de nous, en fait. Ça fait partie de nous, dans le sens où c'est notre sport, donc on s'entraîne pour. Et notre vie d'adolescent, il y a certaines choses qu'on fait un peu moins que les autres.
Il y a des leçons à tirer de cette période-là.
Bien sûr. Des leçons, qui fait que ça nous a permis d'éviter de faire plein de bêtises que nos amis ont fait, on va dire entre guillemets, rentrer un peu plus tôt, parce que le lendemain il y avait entraînement où il fallait se reposer. Ou partir à l'entraînement, pas rester avec eux. Il y avait tous ces petits paramètres-là qui ont fait cette différence, en fait.
Une question qu'on pose à tous les sportifs qui passent dans cette émission, le stress. Tout le monde a sa façon différente de gérer le stress à l'approche des événements. Vous, dans un sport de combat, la boxe française, on rappelle, je ne l'ai pas fait depuis le début, mais la boxe française, c'est la boxe pied et poing. Comment on fait pour gérer le stress, l'appréhension? Parce que là, véritablement, on reçoit des coups et de vrais coups.
C'est ce que je disais, moi, à mes élèves, juste tout à l'heure. Là, je dis, la boxe, c'est un jeu. Et dans ce jeu, il y a les coups. Donc si on fait de la boxe, c'est qu'on accepte le jeu. Donc si on accepte le jeu, on accepte de prendre des coups. Mais comment on les accepte? Tout est dans la boxe. Donc si on apprend dans la boxe à accepter de prendre les coups, à les encaisser, à les esquiver, à travailler tout ça, ça devient normal. En fait, on essaie d'accepter pour que ça devienne normal de se dire que les coups, ils peuvent arriver, qu'on peut en donner, qu'on peut en prendre. Et dès qu'on arrive à comprendre ce système-là, la boxe devient plus simple. C'est vrai que la plupart des gens veulent faire de la boxe, mais ne veulent pas prendre de coups.
Donc, ah oui, ça c'est plus particulier déjà.
C'est impossible. Donc c'est particulier. Si on fait de la boxe, c'est qu'on sait qu'il y a ce risque de prendre des coups. Donc ce risque de prendre des coups nous fait travailler différemment, nous fait travailler autrement, nous fait découvrir cette discipline qu'on croit bête ou qu'on croit fou. Mais non, parce qu'on sait que dans la plupart des boxeurs sortent de leur combat peut-être des fois un peu abîmés, mais d'autres fois non, parce que ils ont fait le travail qu'il fallait faire, travailler, bloquer, esquiver, contrer, donc tout est là-dedans, en fait.
Est-ce que le plus important du travail, enfin de la préparation avant un combat, c'est l'aspect mental, c'est de pas se faire submerger par ses émotions, de rester concentré, de réviser peut-être des gammes s'il y en a au dernier moment. Est-ce que c'est ça le principal aspect de la préparation?
Oui, dans les deux cas. En fait, il y a deux cas. Il y a soit on pense trop parce que peut-être qu'on n'est pas assez préparé. On pense à, on se met plein de films dans la tête parce qu'on n'est pas assez préparé, donc on stresse parce qu'on se dit comment je vais faire si j'ai ça, si je suis fatigué, si on pense toujours ces choses négatives là, parce que ça arrive, hein, même des fois on est prêt, on peut avoir toujours ce doute de se dire je suis pas assez prêt par rapport à ça, j'étais fatigué, je me suis pas entraîné là, j'ai pas fait ça, mais ça fait partie du jeu, donc si on arrive à beaucoup avoir ce côté là peut-être que le jour du combat, on peut arriver un peu plus transcendé parce qu'on se dit malgré que j'ai ça, de toute façon je peux pas revenir en arrière, j'ai pas le choix et je vais de l'avant. Et ce qui est fort dans ce côté stress, c'est qu'on peut trouver des solutions miraculeuses qui font la différence.
Quand on parle de sport de combat, on a forcément un petit peu d'appréhension sur les blessures qu'on peut avoir ou les moments difficiles. Est-ce que vous en avez eu dans votre carrière?
J'ai eu des moments difficiles. Oui et non, je me suis blessé. J'ai eu des blessures. Après, ouais, j'ai fait quand même une grosse blessure où je me suis fait les croisés.
Ah oui, en plus à la boxe, oui, là, sur les déplacements, c'est quand même assez
voilà,
particulier.
Ouais. C'est ça. Et donc, ouais, pendant, j'ai repris assez vite parce que si je me laissais aller, j'aurais pas repris, en fait.
Les croisés, c'est quoi? C'est 6 mois, un an pour quelqu'un de lambda, pour un sportif professionnel comme vous?
Moi, je pense que c'est la volonté de la personne, hein. La volonté de la personne qui fait qu'on peut revenir aussi vite que prévu. Moi, je connais des boxeurs qui sont blessés, qui ont mis du temps à revenir, d'autres qui sont blessés, qui ont mis 5-6 mois pour revenir. Moi, j'ai mis exactement, je me suis blessé en septembre et j'ai reboxé au mois d'avril.
Ah oui. Ah oui, la motivation, elle était, en plus, elle avait la période des fêtes.
Voilà. J'ai pas reboxé en pied-point, mais j'ai reboxé en anglaise. C'est-à-dire que, j'ai quand même refait de la compétition directement après. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, à peu près 7 mois.
Qu'est-ce qui vous a remis le coup de fouet pour revenir, pour pas tout lâcher et revenir en forme?
Le coup de fouet, est-ce que ça m'a même remis un coup de fouet? Oui, parce qu'en plus j'étais sur la lancée, quoi, 2013, 2014, j'avais 30 ans, 31 ans, donc j'étais au top, j'avais beaucoup de propositions de boxe après cette blessure là, donc coupé en plein élan. Après, c'est peut-être un bien pour un mal, il fallait peut-être que je me repose un peu aussi, parce que c'est là où on a beaucoup beaucoup de blessures parce qu'on force beaucoup, et d'être revenu, ça m'a motivé encore plus parce que on peut quand même se surpasser et rêver à retrouver une motivation, quoi qu'il arrive, quoi.
Dans cette carrière, est-ce que vous pouvez nous donner un moment marquant, une victoire particulière qui vous a et qui vous tient d'ailleurs encore, alors peut-être que ça vous tire pas les larmes aux yeux, mais est-ce qu'il y en a une, là, tout de suite, une victoire ou un moment qui vous revient en tête?
Ouais, c'était mon premier championnat du monde que j'ai fait chez moi, quand même organisé à chez moi à Poitiers, à Châtellerault. Et c'était, j'avais quoi, je devais avoir 19 ans, 20 ans. Et ouais, c'était une organisation qui m'a beaucoup marqué. Parce que
c'est la première fois dans une compétition mondiale.
C'est ça. C'est ça. Après, il y en a eu d'autres où j'ai dû prouver mes capacités, mon niveau de boxe, quand j'ai boxé en Russie. Ça, c'est mon premier championnat du monde junior, quand j'ai boxé en Russie, qui est aussi très, très, très important, puisqu'on est parti, on était 4, l'entraîneur et 2 autres boxeurs. Mon entraîneur, et on était parti là-bas et fallait prouver là-bas devant tout le monde et puis fallait gagner, quoi.
Il fallait gagner, ça c'est l'esprit sportif, on en trouve bien là, l'esprit de toujours gagner, de toujours faire du mieux. Justement, est-ce que faire au mieux, faire le maximum, c'est... Alors je présume que oui, mais quels sont les autres conseils que vous pouvez donner à un jeune boxeur ou à quelqu'un qui hésite à faire la boxe française ou de la boxe anglaise?
Avoir confiance en soi, parce que des fois c'est les on-dit qui font qu'on panique un peu, c'est se dire ouais est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir, et on m'a dit que ça frappait fort, on m'a dit ça, mais en fait non, c'est quand on fait surtout ce sport là on est tout seul et on est tout seul jusqu'au bout. On nous aide dans les autour pour les entraînements, sparring, on nous conseille un peu, mais quand on monte sur le ring on est tout seul. Donc si déjà on n'a pas ce côté où un peu pas solitaire, mais tout vient de moi. Et ben je pourrais pas avancer, c'est impossible.
Ça permet d'engranger de la confiance en soi.
Ah, il faut, et c'est obligé parce que il peut arriver. Bon, moi ça m'est déjà arrivé où le jour où je devais boxer, mon entraîneur n'était pas là, ou il était blessé, ou il était malade, il pouvait m'a monté sur le ring et il pouvait pas être dans mon coin. Et c'est une autre personne qui est montée dans mon coin que je connaissais pas plus que ça. Et j'ai pas cette confiance en moi, je peux pas monter. Il y en a beaucoup. Moi, je monte pas sur mon entraîneur, je monte pas sans ci, sans ça. Et à cause de ça, il va perdre un combat qui fait qu'il aurait pu gagner, quoi qu'il arrive. Qu'il soit avec son entraîneur, qu'il soit tout seul. C'est-à-dire que si on n'a pas ce côté où je fais des choses pour moi et que je dois monter sur le ring pour me... Parce que c'est moi qui suis sur le ring, c'est moi qui prends des coups.
C'est un combat plus contre soi que contre la personne en face?
Ah, bien sûr. Hein, quand on monte, déjà, si on arrive à vaincre ses peurs et ses craintes, on a déjà gagné la moitié du combat. Après le reste, c'est le sacrifice qu'on a fait, les entraînements, la souffrance qu'on a eue à côté sur la préparation qui va faire le reste.
Vous nous avez parlé de cette carrière donc et de l'arrêt de cette carrière, c'était en juillet 2023. Comment vous avez basculé de la boxe professionnelle à la retraite? Comment vous avez vécu cette transition? Comment ça s'est passé? Parce que maintenant vous avez une vie de famille. Comment cette transition elle s'est faite?
Franchement, cette transition s'est très très bien faite parce que bon, il y a le Covid, donc comme je dis, hein, ça avait déjà mis le pas à l'étrier, on va dire, entre guillemets. Et je pense que ça a été aussi une petite délivrance de plus forcer autant, parce que ça commençait à être de plus en plus dur avec les enfants, la famille, le travail. Donc lier tout ça en même temps, ça commence à être compliqué. Si c'était pour monter sur le ring et ne pas être prêt et être un peu à côté, c'était plus dangereux pour nous que pour moi que de continuer la boxe, quoi.
Et actuellement, comment vous voyez l'évolution de la boxe française en France?
Au niveau de l'évolution, je pense. Après, je suis plus autant que je suis plus je suis moins le la boxe française qu'avant, mais dans l'ensemble je vois que ça se développe bien, parce que là il y a les World Games qui sont passés là il y a une semaine, ça organise beaucoup, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de nouveaux boxeurs et le niveau est toujours aussi élevé. Donc pour moi c'est encore en évolution, ça pourrait être mieux, mais bon c'est comme ça, avec peut-être parfois les dirigeants et tout ce qui est à côté, ça bloque un peu, mais après c'est la boxe, c'est comme ça.
Voilà, c'est un sport en évolution.
C'est ça.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Modibo Diarra d'avoir été avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du coup?
La santé. La santé, la joie, bonheur et réussite réussite professionnelle dans le domaine du travail.
Eh bien voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.
Ah, merci bien.
Je vous félicite, alors Coraline déjà, parce que vous n'êtes pas mouftée pendant l'entretien.
Voilà. Exactement. Ah non, non, non.
Et pas de
garde-vous. Hein.
Pas de bruit perturbé de la part de Corentin et Erwan. Messieurs, vous mettez les gants, le protège-dents et la coquille? Ils viennent reprendre le micro, ils sont partis.
Voilà. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué quand même. Moi, j'ai pas un physique de boxeur. Hein.
Ouais. Oui, après, oui, faudra déjà trouver quelqu'un à ma catégorie. Et puis après...
Mais non, on va s'organiser ça, vous allez voir. Justement, tout de suite, on va retrouver un classique de la chanson pour se réchauffer, pour s'ambiancer. Earth, Wind & Fire avec September, ça arrive tout de suite. Et juste après, Fabien Galthié est-il toujours l'homme de la situation pour le 15 de France? On essaiera d'apporter quelques éléments, et c'est juste après ça. Fabien Galthié est-il toujours l'homme de la situation pour le 15 de France? J'attends vos arguments. Et évidemment, on va commencer par Erwan. Après la sortie de Fabien Galthié, après un mois de silence à la suite de la défaite en Coupe du Monde, Fabien Galthié est-il toujours l'homme qui va amener la première Coupe du Monde à l'équipe de France?
Alors pour moi, la Coupe du Monde, ça dépend de nous, mais aussi des autres équipes. Hein, voilà. Je ne veux pas non plus être prétentieux. On ne peut pas dire que quelqu'un va forcément amener la Coupe du Monde. Par contre, oui, moi je pense que Fabien Galthié est l'homme de la situation. Pour moi, c'est deux questions différentes voilà, que vous venez de me poser. Mais oui, moi je pense que Fabien Galthié est toujours l'homme de la situation. C'est, l'homme qui a un système. Ça fait partie des rares entraîneurs qui ont un système vraiment établi, qui ont pas de jeu, j'ai presque envie de dire. Il fait aussi partie intrinsèquement des meilleurs. des meilleurs entraîneurs français. Et puis au-delà de ça, il a un profil qui colle particulièrement bien, je trouve, à celui du sélectionneur, plus qu'à celui du coach de top 14, avec un comportement qui parfois peut un peu diviser. En plus, là, il a Raphaël Ibanez qui permet un peu de canaliser Fabien Galthié. Donc moi, je trouve que c'est, oui, c'est toujours l'homme de la situation. Et puis...
voilà. Et puis, ça sera après la pub.
Tiens.
Ah oui, voilà. Faut lever les bras pour que ça marche, pour avoir du réseau.
Voilà, c'est ça.
On en était à... Et puis...
Je pense qu'il va faire... je ne sais pas s'il va faire des merveilles, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire en lui. Et je pense que même que ça serait une erreur de le mettre sur le bas-côté.
Même avec les départs du staff, il y a beaucoup de monde qui a quitté le navire. Il y a Colazo qui s'est fait remercier, qui a été mis à pied par Brive. Est-ce que Colazo pourrait intégrer le staff du 15 de France?
Moi, je pense pas personnellement.
Les oh, non, moi, oh,
déjà, puis, pour le coup, Romain Briat est un Romain Briat. L'ancien entraîneur, je n'ai plus son nom. L'ancien entraîneur des avants du Stade Français est un excellent entraîneur qui a réussi vraiment à créer un pack fort du côté du Stade Français, qui d'ailleurs brille beaucoup cette saison. Et c'est pas pour rien, même si c'est plus du coup il est plus dans le staff parisien. Mais je pense qu'il a permis aux joueurs de partir sur une très très bonne base. Et Perpignan a très très bien joué ces dernières saisons, et Patrick Arletaz arrive dans le staff. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des membres de qualité qui viennent.
Il y a de quoi se réjouir.
Voilà, il y a encore, vous dire, dans le staff, il y a encore quelques têtes importantes qui sont toujours là. Sean Edwards et William Servat.
Et voilà, Raphaël Ibanez.
Le plus manqué, ça va être Thibaut Giroud. On pense à lui. Mais effectivement, faut pas oublier qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même critiqué la préparation physique du 15 de France ces derniers temps, et c'était Thibaut Giroud qui était en charge de ça. Donc est-ce que justement son départ est pas fort peut-être une bonne chose pour le 15 de France, tout du moins quelque chose qui pourrait changer? Voilà, je me pose cette question.
Ah ben ça sera peut-être une question à laquelle on répondra plus tard. Corentin, est-ce que pour vous Fabien Galthié est l'homme de la situation pour le 15 de France? Un sacré problème de connexion. Corentin, il faut appuyer sur le petit bouton rouge pour allumer le micro. Peut-être qu'il nous a quitté, tout simplement. Voilà. ça va arriver. On va l'entendre, Corentin. Corline, en attendant que Corentin revienne, retrouve le chemin. Pour vous, le fait qu'il ait perdu qu'un seul match, certes capital, mais pour vous, est-ce que c'est suffisant pour remettre sa place en question?
Non, absolument pas. Je suis d'accord avec avec Erwan. Le mandat de Fabien Galthié ne peut pas se résumer à un match, ou du moins à une Coupe du Monde. Fabien Galthié, il a fait un travail pendant 4 ans qui est titanesque. On revient de loin, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on revient de très très loin. L'équipe de France, il y a 4 ans, elle en était absolument pas là. Là, elle a un niveau mondial, enfin, on est là, qu'on est troisième, quatrième, il me semble, quatrième nation, donc on est quand même très présent sur le plan mondial. Ensuite, non, Fabien Galthié, même si effectivement, bon nombre des membres du staff ont quitté le navire, je pense que quand même l'ossature est toujours là, et que Fabien Galthié, on peut lui reprocher pas mal de choses, notamment déjà son absence de communication avec les journalistes. Ça, effectivement,
ça a fait notamment un petit peu bondir Richard Wurt.
Ouais, mais après je le conçois effectivement. Il a une façon de communiquer qui est nulle, on va dire. Il communique absolument pas, ou du moins on sent que chaque mot est pesé. Donc en effet, des fois après certaines défaites, on aurait eu besoin peut-être de plus d'explications sur est-ce que vraiment il a compris pourquoi on avait perdu ce match, etc.
Ah bah il a dit le coaching était pas le bon, mais ils avaient prévu de le faire, ils l'avaient adapté, donc il a avoué que le coaching était peut-être pas le meilleur, mais que c'était ce qu'il fallait.
Ce qui va
confirmer.
Oui, effectivement.
Ah, ils sont de retour.
Parce que ça, c'est qu'il a donné d'autres clé de compréhension. Il a parlé notamment de défaillance très très forte sous les ballons hauts, de quelques plaquages manqués, et voilà, de comme vous disiez, d'un
et de l'arbitrage.
Bon, non, l'arbitrage, il a dit que c'était un fin de match. Il a dit qu'il voulait pas se tarder dessus, il me semble, de mémoire.
Parce qu'il ne lui a pas empêché d'envoyer une lettre à la FFR, à la World Rugby, pour lui demander des explications sur certaines actions.
Tous les pour le coup, tous les entraîneurs font ça. Enfin, c'est quelque chose de très, très régulier. Il n'y a pas, c'est pas vraiment un épiphénomène ou quoi, etc. Les demandes pour avoir des éclaircissements. Et même, c'est pas des réclamations pour changer quoi que ce soit. C'est juste des questions et on pose pour comprendre et apprendre après. C'est pas du tout une réclamation. C'est vraiment des questions. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le rugby international.
Corentin, vous qui êtes de retour.
Eh bien, c'est compliqué de se positionner, mais je pense que déjà, cette question, on se la pose parce qu'on est très déçus. On est tous déçus parce qu'on avait de grands espoirs. Maintenant, combien d'entraîneurs ont été champions du monde, toutes nations confondues, à leur premier mandat ? Je pense que Fabien Galthié, c'est un entraîneur qui reste jeune, même si voilà, il occupe ces fonctions-là d'entraîneur, de manager général, etc. depuis un petit moment. Mais c'est un entraîneur qui apprend encore. Et être entraîneur de club, c'est compliqué. Être sélectionneur, c'est un autre métier. Je pense que ce premier mandat, ça a été un bel apprentissage pour construire un groupe, etc. Mais il faut noter surtout que c'est peut-être l'homme de la situation pour arriver à faire consensus entre la fédération et la ligue aussi, parce que la fédération a besoin d'avoir des joueurs disponibles, a besoin voilà, de construire ensemble quelque chose. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait, notamment aussi avec... avec l'introduction des GIFs hein, qui font que la France a été trois fois championne du monde avec des moins de 20 ans, qui on laisse plus de place à la formation, etc. Galthié communique très bien. C'est une communication qui, pour moi, est très orientée grand public et pas spécialiste ou suiveur. Je pense que pour moi, le problème, ce sera le changement de staff. Il faut voir que si ça prend bien avec le groupe, je pense que le noyau dur reste. Et donc ça, c'est important d'avoir voilà, un quatuor Servat, Ibanez, Galthié et Sean Edwards. Après, on verra pour les autres les apports qu'il peut y avoir. Et surtout, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont été champions du monde des moins de 20 ans qui vont intégrer le groupe. Hein.
Notamment Rochelet.
Gaëtan, Tuilagi, on pense... voilà, il y a un vivier qui est très important et peut-être qu'il y a des joueurs qui ont fait leur temps en équipe de France. Et peut-être qu'il faudra un peu changer cette approche qu'il y a pu avoir avec un 15 premium et puis des finisseurs. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un groupe de 30 joueurs qui peuvent prétendre dans une place de titulaire. On l'a vu peut-être.
On l'a vu pour le banc, oui, contre l'Afrique du Sud, où c'était catastrophique. Les remplaçants n'étaient pas du tout à la hauteur de l'événement et du match. Et on l'a bien vu sur les 5 dernières minutes, c'était un peu compliqué.
Oui, c'est ça. Mais en plus, on le voit avec des joueurs. Enfin, je pense à Jalibert, qui finalement a toujours eu un rôle de finisseur et qui n'a pas spécialement apporté ce qu'on aurait pu attendre d'un titulaire. Alors rien ne. Enfin, tous les.
Mais c'est le boulot du coach, ça, de remodeler, repeaufiner, remotiver ses équipes.
C'est ça, je pense qu'il
ça veut dire qu'il n'arrive pas vraiment à le faire.
Il faut que tous les joueurs aussi aient la capacité de, comme il dit, prendre le maillot. Enfin voilà, c'est ça, il faut
le mériter.
Tout le monde soit capable d'être titulaire. Que si on n'a pas Dupont, que Lucu soit capable de nous livrer des partitions qui sont de très haut niveau. Et alors certes, il ne fera pas des différences comme Dupont, mais qu'il soit capable d'avoir un rythme de 80 minutes dans les jambes pour jouer un match. Enfin voilà, je pense qu'il y a ça aussi... des choses à adapter, mais moi j'ai pleine confiance dans Fabien Galthié et on se donne rendez-vous dans 4 ans. Hein.
C'est ça, est-ce qu'on peut se. L'idée c'est de se nourrir de cette expérience pour affiner en tant que sélectionneur et revenir avec un vivier expérimenté en 2027 en Australie ?
Oui, je pense que le vivier est là pour ça. Il va y avoir là, le tournoi de destination qui va permettre aussi peut-être de faire rentrer d'autres joueurs dans la rotation. Et puis après, on verra bien. Je pense que cette année, l'équipe de France, elle peut viser le tournoi de destination, le Grand Chelem. Ça va être très intéressant parce que il y a l'Angleterre qui sort d'une demi-finale, il y a l'Irlande qui est vexée, nous aussi. Donc voilà, ça va être sympa à voir. Et puis voilà, faut relancer une dynamique, peut-être laisser une ou deux années pour bien travailler, les tournées d'automne, enfin les nouveaux tournois qui vont arriver aussi à l'international. Donc voilà, à voir ce que va donner ce staff. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je pense que l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, elle a perdu. Mais elle a gagné un soutien populaire qui est très important, je pense, dans la reconstruction. Ça me fait un peu penser à l'équipe de France en 2014 à la Coupe du Monde de foot, qui ensuite a eu un joli parcours avec l'Euro 2016 puis la Coupe du Monde en 2018. Donc,
finale perdue, la suivante est gagnée généralement.
Bon, on va pas commencer à faire des généralités comme ça. Mais en
ah,
tout cas,
c'est des petits signes, peut-on voir peut-être.
C'est ça. On arrive à se nourrir des défaites pour construire des grands parcours derrière.
Ouah, ça c'est beau ça. Et ben, ce que je vous propose, c'est de rester sur ça. Voilà, on va se nourrir des défaites pour derrière avoir de grands parcours. Allez, petit plaisir. La semaine dernière, pour mon anniversaire, j'ai mangé au restaurant avec Antoine Dupont. Voilà. Enfin, avec. Non, il était à table derrière. Voilà, c'est petit plaisir. Voilà.
Ça fait toujours plaisir pour son anniversaire d'avoir Antoine Dupont dans le même restaurant.
C'est ça. Il était vraiment tout prêt. Puis c'est quand je me suis rendu compte que forcément au moment du gâteau, il y a la flamme qui arrive. Ouais, joyeux. Très gênant, comme d'hab. Et puis le petit bout de chocolat sur le bord de la bouche pour dire salut, ça va. Très gênant. Voilà, c'était peut-être pas.
Est-ce qu'on peut avoir des indiscrétions sur le menu d'Antoine Dupont? Est-ce
que de la viande, concrètement. Non, voilà, quelqu'un de très simple. C'est incroyable de voir que le meilleur joueur du monde est. Et au-delà d'être le meilleur joueur du monde de rugby, quelqu'un de très abordable et de très sympathique, sauf quand c'est fait dans le déraisonnable. Voilà.
Bien sûr, le respect avant tout, en effet, de la vie privée, parce que là, c'est dans sa vie privée.
Effectivement. Bon, tout de suite, on va terminer avec ce débat. Donc tout le monde voit plutôt plus ou moins Fabien Galthiège qu'en 2027.
Oh, largement. Puis qui voulez-vous d'autre?
J'avais pas prévu de poser cette question, Coraline.
Parce que la question se pose pas, voilà, tout simplement.
Ouais, la question peut se poser. Hugo Mola, si on lui fait un contrat XXL en or.
Bah, après, le problème d'Hugo Mola, c'est qu'il a eu certes un très bon passage à Toulouse, mais il faut quand même pas oublier
il a que Toulouse.
À Toulouse, il a eu de très nombreux échecs.
Oui, les premières saisons d'Hugo Mola à Toulouse étaient assez compliquées.
En plus, c'est Noves qui l'avait mis en place. Est-ce que Noves l'a mis en place parce qu'il dit, tiens, certes, il a échoué partout, mais au vu de ses qualités, il peut réussir là. Est-ce que c'est le cas en équipe de France aussi? Je suis vraiment pas sûr.
Est-ce qu'il faudrait une autre expérience ailleurs, peut-être? En tout cas, c'est pas d'actualité, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est très bien au Stade Toulousain.
Ah oui, et puis moi, je rajouterais très brièvement que, comme a dit Corentin, voilà, il faut que tout le monde puisse être titulaire, que si Dupont n'est pas là, on puisse mettre le cul. Et moi, comme je disais tout à l'heure aussi, ça ne dépend pas que de Galthiège, ça dépend des joueurs aussi. Et quand on voit par exemple que Lucu dit depuis plusieurs semaines qu'il n'a peut-être plus envie de jouer en équipe de France, alors que théoriquement il pourrait encore postuler, voilà, on peut aussi se poser des questions sur la volonté qu'avaient les joueurs durant ce mondial et qui sur celle qu'ils pourront avoir après.
Maxime Lucu, que j'ai croisé à Bayonne en plein centre-ville, qui est aussi très gentil.
Vous croisez tout le monde.
Voilà, il est très gentil, aussi très abordable. Moi, je suis pas allé le voir, voilà, par souci, il était avec sa femme, donc on laisse la vie privée. Merci beaucoup, messieurs dames, pour pour ce débat. Tout de suite, on va essayer de pronostiquer. Et c'est un week-end de derby, donc il y a des chances d'avoir peut-être juste. Voilà, sans s'étouffer, c'est quand même vachement mieux. Le résultat de la semaine dernière, on avait parié sur le Stade Toulousain contre l'USAP. Rappel 43 à 34. Corentin avait vu le Stade Toulousain avec 30 points de plus et le bonus offensif. Non, du coup, mais vous aviez vu la bonne équipe. Et Coraline, le Stade Toulousain, on s'est pas trop mouillé et vous avez eu raison.
Eh ben oui.
Ben oui, comme souvent, j'ai envie de dire.
Et en effet, je suis plus doué au pronom que...
C'est vrai. Bon, Erwan, je vous passe pas la question, parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais du Stade Toulousain, ça a tombé sous le sens.
Oui, ça a tombé sous le sens, ça reste vrai qu'on pouvait espérer peut-être un petit peu du souffle. Il a été enlevé au dernier moment.
Oui.
Et je suis un peu déçu que vous ayez pas pris Toulouse-Liverpool, quand même.
On a aussi parlé de Toulouse-Liverpool.
Ah, magnifique. Oui.
Mais ça, c'était... Bon, voilà. Tout le monde a dit Liverpool, évidemment. On l'a vu dans le top. Justement, l'esprit chauvin. Erwan, vous préférez aller du côté des Landes et du Pays Basque ou du côté du Tarn et de la Haute-Garonne?
Bon, on va dire les Pyrénées-Atlantiques.
Allez, vous avez 30 secondes pour nous donner le score et le gagnant entre l'Aviron Bayonnais et la section paloise.
La section paloise est... excellente depuis ce début de saison. Je vais pas dire que ça nous fait penser peut-être au début de saison de Bayonne, enfin à la saison de Bayonne, l'exercice dernier, parce que même la Pau est encore meilleure. Et Pau a réussi à faire jouer quelques mauvais tours à Bayonne la saison dernière, et je pense qu'ils peuvent peut-être réitérer cet exploit-là. Mais franchement, Bayonne, c'est trop solide à domicile pour moi, et je vois bien une victoire de très courte tête de Bayonne avec un bonus défensif pour Pau.
Très bien, victoire de Bayonne avec bonus défensif pour Pau. Je vous pose pas la question, Coraline. On est plus sur du Aviron Bayonnais, section paloise.
Ah, bien sûr, en effet, Aviron Bayonnais, section paloise pour moi.
Eh bien, allez-y, écoutez, on vous écoute.
Ah, je vois bien sûr la section paloise s'imposer. Alors non, effectivement, d'une très très courte tête par contre à Bayonne. En effet, la saison dernière à Onetta, le match avait été délocalisé. La section avait réussi à s'imposer. Je pense que l'exploit est réitérable. En effet, la section est sur 5 victoires d'affilée. Donc sur une très très bonne lancée. Le match dernier contre Bordeaux, la section a eu un petit peu de mal en seconde mi-temps, mais elle a réussi à faire le job et elle va réitérer.
Très bien, elle va réitérer. Un petit score, une petite différence de points.
5 points d'écart, max.
Très bien, pour Pau.
pour Pau.
Voilà, je tiens les scores. Hein, voilà. Peut-être que Corentin, vous allez vous occuper de ce Castres Olympique Stade Toulousain qui a au sud ce week-end.
Ce sera avec plaisir.
Après, je vous l'impose pas, vous faites ce que vous voulez. Hein.
Non, ça me va très bien.
Très bien, alors on vous écoute, vous avez 30 secondes.
Bon, ça va être un match, je pense, qui va être très, très disputé, avec des Castrés qui restent quand même assez forts à domicile, le Stade Toulousain qui récupère les joueurs clés de son groupe petit à petit. Après, voilà, on va voir un peu si la météo permet d'avoir du jeu, des grandes enjambées, beaucoup d'enchaînements de passes et des séquences à rallonge. Mais je vois bien un résultat surprise, 15-15 ou 17-17, un match nul, un peu comme il y a eu lors de la saison 2018-2019, où les Toulousains et les Castrés s'étaient quittés sur un score de 20 partout.
Ouais, la radio, c'est quand même vachement mieux avec des micros. Le match nul, Corentin.
Oui, match nul.
Mais dites donc, si ça, on s'y attendait. Ouais, pas de réaction, je suis pas un DVD, vous pouvez parler, hein, vraiment.
Non, mais écoutez,
on sait que Corentin, l'anniversaire a été compliqué à vivre.
Écoutez, on verra la semaine prochaine.
Et oui, c'est ça, on verra la semaine prochaine. Merci beaucoup, Corentin, d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci beaucoup, Erwan, d'être passé comme ça du côté d'Esprit Sport. On vous retrouve la semaine prochaine, Erwan.
Ben, j'espère bien.
Ça dépend du planning.
Je pourrais venir, mais voilà, si jamais je vois la porte ouverte et que je passe devant.
Si vous voyez la lumière toquer, je suis sûr qu'on sera là.
Ben voilà.
Voilà, merci beaucoup Coraline.
Merci à vous.
Je vous souhaite un pas bon week-end.
Et effectivement, oui. supporter de Bayonne.
Vous allez être à Jean Daugé pour voir ce match
Et non, je serai devant ma télé.
Et non, parce que le stade est déjà complet.
En effet.
Jean Daugé est très souvent complet. Il nous tarde de voir donc ce Jean Daugé complètement plein pour un très beau match. J'en suis sûr. La semaine prochaine, nouvelle équipe ou pas. Un nouvel invité, par contre, ça c'est sûr, au micro d'Esprit Sport. Nous recevrons Sylvain Houles, entraîneur du TO 13, du Toulouse Olympique 13, qui reviendra sur cette longue saison, cette défaite en finale d'accession en Super League et les actualités du club avec la nomination d'Olivier Dubois en tant que nouveau président du rugby, du club de rugby à 13 de Toulouse, le Toulouse Olympique 13. Restez avec nous la semaine prochaine, même heure, même radio, pour un nouveau numéro d'Esprit Sport.